Le collier de perles par Gaston-Charles Richard. De toutes les hivernantes qui étonnèrent Nice par leur faste royale, la moins admirée n'était certainement pas Mrs. Aurora McGlenwitch. Fille très authentique de Philip Carter McGlenwitch du Texas et de Mercedes Aurora Cardozi Inunes, créole de la Havane, elle joignait à la magnifique stature des McGlenwitch la langueur élégante, la morbidezza des Cardozo et Nunes, dont la famille à Cuba occupait d'immenses domaines, acquis par le fer et le feu, à l'époque où Don Panfilo de Narvaez, âme damnée et bras droit de Don Diego Velázquez, faisait au XVIe siècle la conquête de l'île. Le sucre, le café, les eaux de vie et les tabacs fournis durant la guerre à des taux archi-rémunérateurs par Philip McGlenwitch, quelques heureuses spéculations sur les aciers en temps voulu, avait fait du dit Philip McGlenwitch l'un des hommes les plus riches de l'île bénie. Milliardaire et veuf, il se consacra dès lors au bonheur de sa fille, dont il accomplit tous les désirs, subit tous les caprices. Aurora, 20 ans, avait, par sa fortune et sa beauté, conquis droit de cité à New York. Parmi tous ses soupirants, elle distinguait un jeune homme, sérieux et fort cultivé, nommé William T. Sassoon. Écrivain, critique déjà écouté, point fortuné, assez peu sport. Il n'avait, pensait-on, rien pour plaire à cette espèce de nymphe chasseresse, longue et svelte, golfeuse infatigable, nageuse intrépide, cavalière magnifique, qui ne savait rien de la vie intellectuelle et se riait de la fatigue. Éternelle loi des contrastes. Alors que Michael McBoozies, champion olympique du javelot, beau, riche, grand, superbe, briguait sa main à l'approbation de tous, ce fut le buveur d'encre, le William T. Sassoon qu'elle choisit, épousa et adora pendant 1 mois et demi. Puis, comme jeune femme, elle n'avait rien changé à sa vie de jeune fille et menait toujours à travers la maison le même triomphant vacarme de thés dansants, de dîners tumultueux et de surprises parties plus tumultueuses encore, le pauvre garçon se hasarda à tenter quelques observations fort mal accueillies. Bref, Aurora s'était rendue à Hollywood pour y faire du cinéma. Là, moyennant un certain nombre de millions de dollars, elle tourna en vedette dans 3 films. William T. Sassoon, de chagrin, se pendit un soir. Aurora n'en montra point de peine, au contraire. Veuve et libre, elle revint à New York, où nul ne lui fit grise mine. Elle était toujours riche, belle et très sport. Et elle ramenait avec elle, de Hollywood, une singulière amie, Moïna de Nasker. C'était une Scandinave au type finno-hébraïque, blonde, aux cheveux de lin, au teint doré, au sourire étrange, belle comme l'Astarté antique et froide comme les fjords. Elle était riche, elle aussi, et ces 2 femmes, que liait une défiante amitié, commencèrent de conduire à leur gré toute une bande de snobs et de snobettes, béants d'admiration devant elles et prompts à les imiter. Parmi ceux-là se trouvait un jeune financier, un germano-américain, Simeon W. Walker, dont le bonheur en affaires, la paisible audace, la science des combines, avaient estomaqué les plus vieux routiers de Wall Street. Il n'était pas très beau. Il bedonnait un peu, mais il se révélait comme un vrai businessman. En 6 semaines, sa cour faite, il épousa Aurora, qui n'avait pas voulu se séparer de Moïna de Nasker. À Paris, à Londres, à Rome, à Monte Carlo, à Berlin, à Genève, partout on vit l'étrange trio. Et puis, par un beau jour d'hiver, en revenant de Nice, Simeon W. Walker mourut, d'un coup de sang, assura-t-on officiellement, empoisonné, murmurait-on tout bas, et par pure coïncidence, sans doute, ruiné à plate couture. Sa femme fit transporter le corps du malheureux à New York et pleura quand on l'embarqua. Puis, pendant que le mort, envoyé par son valet de chambre et un clergyman, voguait à bord du Paris, dans un triple cercueil de plomb, de peupliers et d'acajou massifs, confortablement capitonné de satin noir, Aurora et Moïna louaient une villa à Nice et s'y installaient. Elles y reçurent, malgré le deuil d'Aurora, un peuple d'amis de toutes les nations, voire quelques Français, tolérés dans ce capharnaüm élégant où l'on parlait toutes les langues. On y organisa des fêtes antiques, des visions d'art. En fin de compte, Moïna, avec le concours d'un esthète coréen, Chung Shin-woo, organisa, dans le délicieux décor d'un temple du pays des matins calmes, édifié dans un immense studio, une fumerie. Le studio, construit pour ses fins, comportait deux cubes, l'un de 16 mètres de long sur 12 mètres de large et 6 de hauteur, inclus dans l'autre, qui dans chacune des trois dimensions comportait 8 mètres de plus. Le premier cube, élevé sur pilotis de ciment armé, fut à l'intérieur comme à l'extérieur, transformé en temple avec d'authentiques statues, des matériaux anciens et rares. On peignit en trompe-l'œil, sur les murs du second cube, des dioramas inspirés des paysages coréens que l'on voyait à travers les baies du temple et que l'on pouvait à volonté colorer en bleu de nuit, en plein soleil, en rose d'aurore, en mauve crépusculaire. On remplit d'eau la cuve inférieure du plus grand cube, eau que des radiateurs spéciaux maintenaient à 22 ou 25 degrés. Tous ceux que l'on recevait là étaient triés sur le volet. Les invités voyaient passer et repasser sur et dans les eaux des génies et des déesses, des nymphes, des néréides, des tritons, pendant qu'un orchestre invisible rythmait des airs chinois, japonais ou persans. Et pourtant, un beau matin, en se réveillant, après une fête des cerisiers en fleurs, qui lui avait coûté la bagatelle de 20 000 $, Aurora s'aperçut qu'on lui avait barboté fort inélégamment son collier de perles, le plus beau, lequel était estimé, en ces temps de grande pénitence, pour le vulgum pecus français, un peu plus de 3 000 000 de francs. Qui donc pouvait avoir eu, dans ce milieu si choisi, un geste si vulgaire? Tout de même, il importait de le savoir, ne fût-ce que pour expulser la brebis galeuse, en douceur et sans scandale. Mais à qui confier une telle affaire? On ne tenait guère à voir la police mettre son nez là-dedans. Ce fut alors qu'un délicat esthète anglais d'excellente famille, qui connaissait Elsa de réputation, s'offrit à la prier de se charger de l'affaire et partit pour Londres. 6 jours plus tard, il ramenait la détective. L'homme aquarium. Elle n'était pas depuis une journée dans la maison qu'elle y subodorait un parfum de pillage organisé. Les deux jeunes femmes qui l'accueillaient à 10 heures du matin n'étaient pas tant sans faux des maîtresses de maison accomplies. Toute la domesticité, trop nombreuse, devait se goberger aux frais de Mrs. Aurora et de son amie. Et fort probablement, les amis des amis et amis des fonctionnaires de l'office étaient admis eux aussi à ces réjouissances. Ce ne fut pas sans peine qu'Elsa put obtenir de ces deux folles quelques précisions sur ceux et celles qui assistaient aux fêtes du studio d'art vivant et sur la figuration qui participait à ces réunions. « Ne soupçonnez-vous personne ?» demanda enfin Elsa. « Oh, cher, comment soupçonnerions-nous quelqu'un ?» soupira Aurora. « Nos amis sont tellement chics. Mais enfin, vous les connaissez bien tous ?»«
Oui, nous les connaissons tous, » dit languissamment Moïna. « Hommes et femmes, ils sont insoupçonnables.
Et parmi vos domestiques ?»«
Non, ils n'ont pas accès dans le studio d'art. » »«
Donnerez-vous une autre fête ?»«
Oui, certainement. » Dans 5 ou 6 jours, une très belle fête. Une incantation de la mer au pays du soleil levant. Ce sera la dernière.
Il faut que j'assiste à cette fête, parmi vos invités, dit Elsa.
Oh oui,
répondit tout de suite Moïna. Comment vous appellera-t-on?
Sawani Kriller de Batavia.
Je me charge de mon costume.
Oh, Sawani, c'est si imprévu.
Qu'est-ce que c'est, cher?
Le nom d'une déesse, celle de la vigilance. « Oh oui, Savani, j'aime. Pour Savani, je prêterai un bracelet, des diamants. Dites, Moïna. »«
Non, votre bracelet d'émeraude et de perles roses. » Le soir même, Miss Savani Kriller de Batavia dînait entre Moïna et Aurora. Le lendemain, elle assistait à une surprise partie. Le surlendemain, ayant découvert chez un costumier de la ville des oripeaux de danseuses javanaises, elle les arrangea à sa taille et durant un souper, apparut tout à coup, chantant et dansant et mimant. Du coup, elle conquit sa renommée d'original. Elle le fut bien plus, 3 jours plus tard, en révélant à quelques initiés des soirées de la ville Aurora, les mystères de la danse des bâtons et des serpents, puis de la danse des cercles, puis de la danse des 7 voiles, qui ne sont pratiquées que par les danses sacrées des temples d'Eonmes. Elsa connaissait très bien tout cela. En son enfance, sa nourrice indigène l'emmenait au théâtre d'ombre populaire et aux danses rituelles des grandes fêtes bouddhiques. Et elle avait vécu en Turquie et en Asie. Cette fois, Moïna et Aurora décidèrent qu'elle ne se séparerait plus d'elle, qu'elle était un délice vivant, et qu'Elsa, la détective, céderait la place dans leur vie et dans leur cœur à Sawani, l'incantatrice. Dans le studio, pour cette fête de l'incantation de la mer, le Japon, la Chine, la Corée d'une part, la Perse, l'Inde, l'Empire Khmer de l'autre, avaient été mis à contribution. 40 invités, familiers, amis et amis les uns des autres, 20 serviteurs jouaient leur rôle. Une vingtaine de figurants avaient pris place dans le double cube. Un orchestre de geisha, visible par une baie close d'une glace en tin, jouait d'étranges airs, et dans les eaux, sur les rocs artificiels, dans les arbres, sur les petits ponts laqués de rouge écarlate et d'or, circulaient, nageaient, bondissaient des génies, des sirènes, des déesses, des monstres à corps humain, à face démoniaque. On fumait l'opium, on buvait le saké chaud dans des coupes de porcelaine, le chouchoum dans des tasses de cristal, le thé, le champagne même. Elsa avait faim de fumer, et immobile, les yeux mi-clos, étendue sur sa natte, un coussin sous la nuque, elle semblait savourer son ivresse en un rêve délicieux. Elle s'arrangeait pour ne pas perdre de vue un trio singulier qui parmi les invités semblait faire bande à part. C'étaient deux hommes et une femme. L'un des deux hommes, chinois authentique, avait été présenté à Elsa sous le nom de Wu Chang. La femme, une japonaise métissée de blanc, se nommait Miss Kayo Kawastimura. Le second des deux hommes, Paul Auchter, un gaillard de 6 pieds de haut, était un artiste et sous une défroque de triton à barbe verte, avait figuré un dieu de la mer, puis fumé un cigare, bu une coupe de saké, et il demeurait immobile comme une pierre, vautré sur une natte, près d'une lampe et d'une pipe de bambou noir. L'heure s'avançait. 3 coups venaient de tinter dans le silence. Nul ne bougeait plus. Les russes chanteurs et les geishas s'en étaient allés. Quelques artistes, fumeurs de drogue, jonchaient les nattes, les divans. Elsa ne bougeait toujours pas. À son poignet scintillait, à côté du magnifique bracelet d'émeraude carré prêté par Aurora McGlenwich, un autre bracelet, tout en rubis cabochon, d'une teinte splendide et du plus beau choix confié par Moïna. À 3h30, Elsa vit la japonaise se dresser lentement sur un léger sifflement du chinois Wu Chang. En rampant, elle se glissa vers une invitée, une Allemande, qui portait au cou un beau rang de perles roses. En un instant, le collier détaché disparut dans la bouche de Kayo, qui, en rampant, arriva vers Elsa. En quelques secondes, les deux bracelets furent enlevés du bras de la policewoman. Avec une telle légèreté de main qu'à peine Elsa, qui pourtant ne dormait pas, en ressentit un insensible frôlement. Puis, Kayo, toujours en rampant, revint vers Wu Chang, qui de sa ceinture avait tiré une boîte ronde, pleine de ce qui parut être à Elsa du mastic de vitrier. Avec une prestesse de singe, le chinois enroba successivement les 3 bijoux dans ce mastic, étiré en nappe sous ses doigts. À son tour, Paul Auchter prit les bijoux ainsi préparés. Ils avaient tous 3 la forme d'une longue saucisse, leva la tête, le plus possible, jusqu'à ce que son menton fût en ligne droite avec sa poitrine, ouvrit la bouche, et par un lent mouvement de déglutition, avala successivement le collier, le bracelet de rubis et le bracelet d'émeraude. Elsa, en un brusque éclair de mémoire, revit cet homme, debout, au milieu du cirque Hagenbeck à Hambourg, ou du cirque Barnum à New York. Elle ne pouvait exactement le préciser. Au moment où, dans la pose classique de l'avaleur de sabre, il engloutissait une 30 de gros poissons rouges qu'il faisait ensuite ressortir vivant par le même chemin. Ce dégoûtant exploit, qui avait soulevé le cœur d'Elsa de nausées insupportables, provoquait le rire et les trépignements de joie de toute la salle. Mais qu'allaient maintenant faire les 3 complices ? Commandément installés autour de la même lampe, les 2 hommes se mirent à fumer la drogue. Bientôt l'homme aquarium, terrassé par le stupéfiant, s'endormit. Comme un cadavre, son grand corps gisait sur les nattes. La japonaise jeta sur lui une épaisse couverture, puis elle fuma elle-même, en même temps que Wu Chang qui préparait méthodiquement ses propres boulettes. Enfin, il tendit sa précieuse pipe d'ivoire décaillée d'argent à sa compagne, murmura quelques mots et s'allongea. La japonaise fuma encore 30 de pipes, puis s'enroula dans sa robe et alla s'allonger près de Moïna qui dormait, insensible à tout. 5 heures sonnèrent. Elsa, rompue, courbattue de partout d'être restée si longtemps immobile, se mit sur son séant, puis debout, et regarda la vaste salle jonchée de corps immobiles. « Pouah, quelle morgue !» pensa Elsa. Elle quitta le temple du pays des matins calmes, gagna sa chambre, et après avoir au préalable donné ses instructions à 3 vigoureux gaillards qu'elle avait fait venir de Londres, alla prendre une douche boire une tasse de lait et s'offrit ensuite le luxe de 2 heures de sommeil. À 8 heures du matin, le Chinois, la Japonaise et l'homme aquarium se réveillaient, très convenablement ligotés. La bouche mauvaise, les yeux écarquillés, ils eurent peine tout d'abord à comprendre pourquoi 3 hommes attentifs, à la carrure herculéenne, et 3 femmes curieuses attendaient leur réveil. Ce fut la Japonaise Kayo qui, la première, réalisa ce qui s'était passé. Puis Wu Chang, sur 3 ou 4 mots qu'elle prononça, sourit, et lui aussi comprit qu'il n'y avait plus qu'à avouer, ce qu'il fit avec beaucoup de bonne grâce. Pendant que l'homme aquarium, dans un lavabo éloigné, restituait non seulement le triple larcin de Kayo, mais encore une bague d'homme en platine ornée d'un fort beau brillant carré qu'il avait emprunté à son voisin de Nat, un Américain, qui devait sa béatitude beaucoup plus au saké et au choum-choum qu'à l'opium, Wu Chang expliquait à Elsa, sur le ton le plus posé, avec l'aisance d'un homme de bonne compagnie, comment il avait eu l'idée d'utiliser et la légèreté de main de Kayo et les facultés de l'homme aquarium. « J'appartiens, dit-il, à une société secrète d'amis très dévoués les uns aux autres, et tous adorateurs du subtil opium. C'est vous dire qu'à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Berlin, à Hambourg, à Rome, à Naples, à Constantinople, partout, dans ce vieux continent où je passe ma vie, j'ai mes habitudes, mes repères. Je sais où je puis aller fumer pour mon plaisir et fumer pour le travail. Mais s'il est facile, relativement, de cueillir argent ou bijoux sur des fumeurs et des fumeuses terrassées par la drogue, il est par contre difficile parfois de sortir les 10 bijoux. J'ai failli me faire pincer une fois, alors que je venais de priver une grande dame anglaise d'un fort beau joyau de diamants. Et je n'eus que la ressource de retrouver le 10 joyaux sous la natte de ma voisine de fumerie, autre grande dame qui, insoupçonnable, demeura insoupçonnée. C'est alors que je vis à Hambourg Paul Auster et Kayo, et que j'eus l'idée de les utiliser. Croyez-vous qu'il me fallut plus d'un mois pour décider ce grand imbécile d'Autrichien à accepter mes propositions? Il disait que l'on est honnête dans sa profession, que s'il était pincé, jamais il ne pourrait reparaître sur le tapis. Kayo eut moins de scrupules. Enfin, nous pûmes opérer, après que j'eus employé 6 mois à dresser ces 2 êtres à jouer, tant bien que mal, leur rôle d'intoxiqués. Je donnais Auster tantôt pour mon ami, tantôt pour mon secrétaire, Kayo pour ma femme. J'eus un mal affreux à le faire fumer. Il disait que ça lui donnait des nausées. Un imbécile qui avalait des poissons vivants, des poissons rouges plus gros que des sardines, pour 10 livres par semaine. Enfin, nous fîmes un beau coup. Il avala sans difficulté un collier de perles un soir à Berlin, puis à Paris, une rivière de diamants, ancienne, à monture à griffes, qui appartenait à une vieille intoxiquée, décrépite comme une parque, qui se réveilla trop tôt et cria horriblement au voleur, si horriblement que la police s'en mêla. S'ils ont l'idée de nous radiographier, pensais-je, nous sommes fichus. Mais tout se passa très bien. Et sur ces 2 vols, le couple, pour sa part, toucha 30 billets. En 1 semaine, c'était gentil. À Munich, puis à Genève, un pendentif, une bague, un bracelet, passèrent dans la cachette de Paul Auster et produisirent, pour eux, 1500 000 francs. Oui, mais nous eûmes des ennuis. Paul, à rester des jours sans rien faire, perdait peu à peu son entraînement à prendre et à restituer. Et un jour, après avoir avalé un bracelet assez large, pas plus pourtant que la lame d'un sabre, il eut une peine infinie à nous le rendre, et se plaignit ensuite de maux d'estomac très violents. Il fallut qu'il recommençât d'acheter des poissons rouges, des grenouilles et autres dégoûtantes choses pour s'entraîner, pendant que, de mon côté, je cherchais comment épargner à ce pauvre garçon des douleurs qui pourraient bien, en fin de compte, le dégoûter du métier. Enfin, un jour, dans une revue de vulgarisation scientifique, je lus que lorsqu'un enfant avait avalé une épingle ou une arête de poisson ou tel objet pointu ou coupant, on pouvait grandement faciliter l'expulsion par l'une ou l'autre des voies naturelles en faisant avaler au patient des morceaux d'une pâte composée de farine de maïs, d'huile d'olive et de miel amenée à la consistance d'un mastic mou. Ce fut pour moi une véritable révélation. Nous essayâmes, mais Auster abhorrait l'huile d'olive. Enfin, nous arrivâmes au résultat voulu en mélangeant en proportions convenables la farine de maïs, l'huile de paraffine et le miel, aromatisé d'un peu de menthe ou d'anis. Alors, cela alla tout seul. Il s'entraîna à avaler un collier composé de boules de bois de plus en plus grosses,
dans le but de faire votre collier, Mrs. McGreenwich.
Et jamais plus, depuis que nous employons ce système, Paul ne s'est plaint de maux d'estomac.
« Pourquoi m'avez-vous volé mon collier ?» dit Aurora avec colère.
« Pour le revendre. Nous pensions que vous ne porteriez pas plainte. »«
Ah !» fit Moïna, stupéfaite. « Pour un collier de 3 millions et plus ?»«
Oui, oui, j'en conviens. C'était allé un peu fort. »« Mais ne se plaignait-on jamais ?» demanda Elsa.
« Presque jamais. Les intoxiqués préfèrent ne pas attirer l'attention sur eux. Jamais personne n'a rien dit. Pour un collier de 3 millions, oui, oui, j'en conviens, une plainte s'excuse. »
« S'excuse ?» dit en riant Elsa.
« Le mot est charmant.
Mais parlons sérieusement. Où est ce collier ?
Désirez-vous le racheter ? Dans ce cas, nous pourrions faire des concessions. »
« Écoutez, monsieur Wuchang, » dit Elsa avec calme, « je n'aime pas beaucoup les paroles inutiles. Donc, je vais être brève.
À vous de me bien comprendre. Je me nomme Elsa Van Lagels et je suis détective privé, assermenté près les autorités anglaises.
De votre propre aveu, vous avez commis des vols à Berlin et à Londres. Si vous ne consentez pas à restituer le collier, mes hommes vont vous conduire à la sûreté. On déposera simultanément une plainte contre vous à Paris, Berlin et Londres. Vous ne sortirez des mains de la justice française que pour tomber dans celle de la justice anglaise. Je serais étonné si vous vous en tiriez à Londres à moins de 2 ans de hard labor. La justice anglaise vous transmettra ensuite, bien soigneusement, au juge allemand. En tout, vous purgerez 8 ou 10 ans de prison.
Et si je parle ? Demanda le Chinois.
Vous vous en irez d'ici, librement, avec vos amis, et vous filerez où vous voudrez.
J'accepte, dit Wuchang.
Si nous partons tous 3 librement, et si l'on ne nous inquiète pas, je jure que le collier sera ici ce soir entre vos mains.
Sur quoi le jurez-vous ? Demanda Elsa.
Wuchang tira de sa poitrine un étui de laque d'or, dont il sortit une petite plaque de jade à suif mouton dont il inséra le pied dans une mince rondelle d'ivoire.
« Voilà, dit-il, la tablette de mes ancêtres. Par leur nom vénéré et hautement vénérable, je jure, moi, Fu Wuchang, de rapporter ici, ce soir, avant le coucher du soleil, le collier que nous avons volé. Si je ne le rapporte pas, je dis que devant mes ancêtres, j'aurais perdu la face.
« C'est bien, dit Elsa, qu'on le laisse aller. » Et Wuchang s'en alla, avec ses 2 complices, non sans avoir fort gracieusement salué les 3 femmes. Le soir même, avant le coucher du soleil, un fleuriste en renom apportait à Mrs. Aurora McGreenwich une splendide gerbe de fleurs accompagnant une boîte dans laquelle reposait intact le collier volé. Une seconde gerbe était destinée à Elsa. Elle était aussi accompagnée d'un écrin qui contenait une fort belle bague composée d'une turquoise de vieille roche et de 4 brillants de l'eau la plus pure. Et ce présent inattendu était accompagné de cette lettre ahurissante. « Miss, la reconnaissance est une vertu chinoise. Nous appelons donc sur vous et sur votre sagesse, tellement vieille déjà dans l'expérience des vices des hommes, la pluie divine des 10 000 bonheurs. La leçon donnée nous profitera. Nous ne prendrons plus aucun joyau, collier ou bracelet dont la valeur dépassera francs 500 000. Merci grandement aussi pour la consultation juridique si bien motivée. Nous partirons pour travailler à Cairo, à Constantinople et aussi en USA, parce qu'il vaut mieux faire oublier nous 3 dans Paris, Berlin et Londres durant année 5, par exemple. En nous prosternant devant vous, nous vous demandons d'accepter la bague. Elle a été achetée et payée par $1 000 chez le bijoutier à qui vraiment nous n'avons rien du tout pris. 6 joints sur un parchemin que vous collerez sur une carte, n'est-ce pas ? Ou que vous mettrez dans un médaillon, un sceau de protection. Il n'est pas valable pour la Chine du Sud, qui est un pays pourri et sans honneur. Mais il est bon pour Chine du Nord, Yunnan, Mandchourie et Tibet. Avec les 10 000 salutations de votre très honoré Fu Wuchang. P.S. Je suis très étourdi, et j'excuse ma légèreté près de votre sagesse. J'ai oublié de dire que le sceau est valable aussi pour l'Europe. En cas de contestation avec mes compatriotes. Caillou a mis sa marque aussi à l'envers du parchemin. Bien qu'elle ne soit pas de grade élevé, cette marque vaut comme recommandation de considération envers votre très distinguée personne. De vous, le serviteur indigne, P.W.T. Ainsi s'achève Le collier de perles de Gaston Charles Richard.